Alors bonjour frères et sœurs, le thème de cet enseignement est le zèle pour le salut des âmes, l'offrande de soi et les petits sacrifices. Le mois dernier, Martine vous a parlé de l'exercice de la compassion. Le thème que je dois traiter aujourd'hui est intimement lié au précédent, car le zèle pour le salut des âmes est le fruit direct de la compassion. La pratique assidue de l'adoration et l'exercice de la compassion transforment progressivement notre cœur et nous font percevoir d'une façon nouvelle les besoins de nos frères et sœurs en humanité. Dans cet enseignement, je voudrais vous montrer comment l'ardeur missionnaire qui animait Pierre Goursat, thème qui sera développé ultérieurement, prend sa source dans son zèle pour le salut des âmes, qui est lui-même la conséquence de son désir de se laisser consumer par le feu de l'amour. Je développerai ensuite comment cette attitude spirituelle se traduisait concrètement pour Pierre par l'intercession pour les pécheurs et la pratique des petits sacrifices. Puis, comment l'offrande de soi s'origine dans le cœur de Jésus, d'où provient l'effusion de l'Esprit. Je procéderai donc en quatre parties qui comporteront chacune plusieurs points. La première partie s'intitule « Attiser en nous le zèle pour le salut des hommes ». Premier point, Dieu veut sauver tous les hommes. Parler du zèle pour le salut des âmes peut paraître étonnant, voire ringard, tant l'expression paraît démodée aujourd'hui. Et pourtant, comme le rappelle le Code de droit canonique de 1983, je cite, « Le salut des âmes doit toujours être dans l'Église la loi suprême ». Dans son exhortation apostolique « Evangelii Nuntiandi » du 8 décembre 1975, Paul VI a rappelé, à la suite des textes du Concile Vatican II, en particulier la Constitution sur l'Église Lumen Gentium et le décret sur l'activité missionnaire de l'Église Ad Gentes, que la présentation du message évangélique n'est pas pour l'Église une contribution facultative. C'est le devoir qui lui incombe, par mandat du Seigneur Jésus, afin que les hommes puissent croire et être sauvés. Et le pape en précisait la raison, c'est le salut des hommes qui est en cause. Tous les saints, tous ceux et celles qui ont suivi le Christ, qui ont marqué l'histoire de l'Église, quelle que soit l'époque où ils ont vécu, étaient habités par cette hantise du salut des âmes. Ils avaient une vive conscience que Dieu veut sauver tous les hommes, ainsi que du prix qu'a payé Jésus en mourant pour nous sur la croix. Pierre Goursat a lui aussi été animé par ce désir du salut des âmes. Il fut très marqué par le cardinal Suard, qu'il rencontra régulièrement à Paris à partir de 1943. Pierre partageait avec l'archevêque de Paris le zèle pour l'évangélisation de la France, largement déchristianisée. Il disait de lui, il avait un esprit missionnaire, si bien qu'il a créé la mission de Paris, il a créé la mission de France, il était brûlé d'amour missionnaire. Un soir, le cardinal Suard et Pierre se trouvèrent ensemble sur la butte Montmartre qui domine Paris. Alors qu'ils regardaient la capitale, le cardinal fit part à Pierre de son angoisse pour le salut des habitants de cette grande ville et dire que je suis responsable de 3 millions d'âmes, que le Seigneur me demandera compte de ces 3 millions d'âmes. Pierre évoqua ensuite souvent cet épisode qui fut sans doute déterminant pour toute sa vie. Il disait plus tard, « On demande au Seigneur de nous faire brûler d'amour pour la conversion de nos frères. Il faut demander tous les jours de notre vie au Seigneur, à partir de maintenant, de nous donner ce feu brûlant pour la conversion des pécheurs. » Deuxième point, nous laisser embraser par le feu de l'Esprit-Saint. Dans la Bible, le feu est un symbole de la présence de Dieu. Je cite l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, verset 29, « Notre Dieu est un feu consumant. » Dieu révèle à Moïse son nom, c'est-à-dire son identité, dans le buisson ardent qui brûlait sans se consumer. C'est dans le livre de l'Exode au chapitre 3, versets 2 et 3. Se référant à cet épisode biblique, Pierre Goursat disait « L'important, c'est de dire qu'on est consumé plutôt qu'on est brûlé et qu'on est des buissons ardents. Des buissons ardents qui brûlent et qui ne se consument pas. On a tous les avantages, on brûle et on ne se consume pas. Ça fait une drôle de chaleur, je vous promets. Et finalement, c'est ce que Jésus a demandé. Je suis venu apporter le feu sur la terre et que désirais-je sinon qu'il s'allume ?» Il faisait référence à Saint Luc, chapitre 12, verset 44. Et Pierre continuait ainsi. « Or vraiment, nous pouvons faire un feu de brousse qui se transforme ensuite en feu de forêt. Le feu, la forêt est tout en feu. Et vraiment, cet amour du Seigneur, l'Esprit Saint, nous transporte complètement. » Et Pierre, nous le savons, répétait souvent à ses proches, « Il faut que ça brûle. » De même que le feu exprimait la purification du péché dans les rites d'Holocauste de la Première Alliance, l'Esprit Saint est un feu purificateur. Pierre disait, c'est un feu purificateur, il fait un feu de joie avec nos péchés, et puis après le péché disparaît parce que c'est vraiment son feu qui brûle. Dans les débuts du renouveau, Pierre Goursat ne supportait pas les groupes de prière où l'on passait son temps à se centrer sur soi, se regarder le nombril, à vouloir se purifier d'une façon morbide en oubliant que l'Esprit-Saint nous avait été donné. Pierre disait, on dit toujours, « Ah Seigneur, coupe, arrache, détruis !» Et moi je trouve que ce n'est pas du tout agréable cette histoire-là. Parce que comme il y a des adhérences, plus vous les coupez, plus elles repoussent. Alors le plus simple, c'est de demander le feu du ciel, qu'il vienne sur nous. L'Esprit-Saint est un feu ardent qui s'empare des apôtres à la Pentecôte, enflammant leurs paroles et embrasant le cœur de leurs interlocuteurs. Il est un feu dévorant qui brûle de l'intérieur ceux qui l'accueillent. Les langues de feu qui se posèrent sur les apôtres le jour de la Pentecôte évoquent les différentes théophanies, manifestations de Dieu de l'Ancien Testament, en particulier celle du Sinaï, où Dieu se manifeste dans le feu lorsqu'il renouvelle avec son peuple l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Troisième point, la double signification de la fête de la Pentecôte. Avant d'être célébrée par les chrétiens, la Pentecôte, comme Pâques, est une fête juive. La Pentecôte, appelée aussi la fête des semaines, Shavuot en hébreu, revêtait deux significations différentes à l'époque du Christ. Elle était à la fois la fête de la moisson et le mémorial du don de la Torah. Dans la première tradition, celle de la fête de la moisson, le lendemain du jour de Pâques, on offrait à Dieu les prémices de la récolte, c'est-à-dire la première gerbe de blé ou les premiers fruits arrivés à maturation, qui annonçait l'ensemble de la moisson qui commencera à la Pentecôte 7 semaines plus tard. L'Esprit Saint qui est donné à l'Église naissante est la manifestation de la surabondance du don de Dieu, l'annonce de la fécondité de l'Église. La Vierge Marie et les apôtres, réunis au Cénacle, représentent les premiers fruits de cette nouvelle moisson annoncée par le Christ pour la fin des temps. Ils préfigurent tous ceux et celles qui accueilleront un jour la grâce du salut, à l'image de ces milliers de personnes qui demande le baptême à la suite de la première prédication de Pierre, acte 2, 41. L'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte anticipe ainsi le rassemblement futur de tous les peuples en Jésus-Christ. Le peuple d'Israël célébrait également la Pentecôte comme le mémorial du don de la Torah, en référence à la conclusion de l'alliance avec Moïse sur le mont Sinaï. Le jour de la Pentecôte s'accomplit alors la prophétie de Jérémie, bien connue au chapitre 31, versets 31 à 33. « Voici venir des jours où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. » L'Esprit Saint est cette loi nouvelle qui n'est plus extérieure à l'homme, mais intérieure. Une loi qui n'est plus gravée sur des tables de pierre, mais dans le cœur des croyants, comme l'écrit saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 3, 6 à 7. L'Esprit Saint est l'Esprit de vérité qui nous éclaire et inspire nos actes, mais aussi l'Esprit d'amour qui allume en nous la ferveur et le feu de l'amour. Il nous met en contact avec le Christ ressuscité et nous le fait connaître d'une connaissance qui engage la vie, qui concerne notre volonté et nos puissances affectives. Amour mutuel qui unit le Père et le Fils, le Saint-Esprit nous communique cette charité divine qui existe au sein de la Trinité. Il infuse en nous l'amour et le rend opérant. C'est un feu qui nous embrase d'amour pour les autres. J'en viens donc à ma deuxième partie, brûler d'amour pour les autres, les plus pauvres en particulier. On voit combien le zèle pour le salut des âmes est intimement lié au thème de la compassion que Martine Cata a développé la dernière fois. Premier point, de la compassion affective à la compassion effective. Comme je vous l'ai dit dans l'enseignement sur la conversion, un certain nombre d'événements ont profondément meurtri le cœur de Pierre Goursa dans son enfance et sa jeunesse. La séparation de ses parents, les troubles psychologiques de son père, la mort prématurée de son petit frère Bernard, le fait d'être lui-même malade et de santé fragile. Et si certaines de ces blessures sont restées ouvertes jusqu'à la fin de sa vie, elles ont ouvert son cœur aux souffrances des autres. Parce que Pierre ne s'est pas refermé, replié sur lui-même, ces traumatismes ont été le terreau où sa compassion s'est ensuite déployée. Sa grande délicatesse de cœur lui permettait de percevoir la souffrance et les attentes de l'autre, d'écouter et de conseiller les personnes. La compassion est cette capacité à se laisser émouvoir, toucher par les souffrances de l'autre, mais elle suppose une purification du cœur, un apprentissage. Si la sensibilité et l'empathie sont des qualités qui nous rendent proches des autres, la sensiblerie est un obstacle pour exercer la compassion. Parce que si nous nous laissons submerger par notre affectivité ou nos émotions, nous risquons de projeter sur l'autre nos propres souffrances, notre mal-être et de l'accabler davantage. Pour aider les personnes qui souffrent, il est essentiel de prendre de la distance, du recul, sans pour autant nous blinder, en gardant le cœur ouvert aux misères matérielles, psychologiques et spirituelles des autres. Il s'agit de passer d'une compassion affective à une compassion effective qui nous pousse à prier pour ces personnes en difficulté, mais aussi à mettre en œuvre les moyens concrets pour leur venir en aide. C'est le deuxième point, de la compassion à la charité en acte. C'est dans l'adoration du Saint-Sacrement que Pierre Goursa puisait sa compassion. Mais en même temps, il percevait que pour certains, la prière pouvait être un refuge. Il disait, si on adore le Seigneur et qu'on ne produit pas des fruits de charité, eh bien c'est une adoration enfermée sur nous-mêmes et qui n'est pas vraie. Tandis que lorsqu'on est en contact avec la misère, avec la souffrance, avec les ténèbres et qu'on voit des frères qui souffrent, alors notre cœur s'émeut de compassion profonde, réelle et concrète. Et on demande dans la charité au Seigneur d'aider ses frères, si bien qu'on se met vraiment à brûler d'amour. Et à ce moment-là, on vit réellement dans la charité. Alors que les groupes de prière se multipliaient rapidement et que les participants y affluaient de plus en plus nombreux, Pierre nous invitait à prêter beaucoup de soins à l'accueil et au suivi des personnes. Et alors qu'on avait quelques difficultés pour accueillir et accompagner les gens, il disait un jour, le premier point important, c'est la charité. Et la charité en acte. Or, actuellement, nous avons plein de personnes que nous ne pouvons pas accompagner. Troisième point, l'amour préférentiel pour les pauvres. La doctrine sociale de l'Église met en valeur l'option préférentielle pour les pauvres, thème qu'a souvent abordé Jean-Paul II dans son pontificat, ainsi que Benoît XVI ensuite. Lors de l'audience générale du 27 octobre 1999, qui avait pour titre « L'amour préférentiel pour les pauvres », Jean-Paul II affirmait. Le Concile Vatican II souligne une dimension spécifique de la charité qui nous conduit, sur l'exemple de Jésus-Christ, à aller en particulier à la rencontre des plus pauvres. Comme le Christ a été envoyé par le Père pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs meurtris, chercher et sauver ce qui était perdu, de même l'Église enveloppe de son amour tous ceux que la faiblesse humaine afflige, bien plus dans les pauvres et les souffrants. Elle reconnaît l'image de son fondateur pauvre et souffrant, elle s'efforce de soulager leur misère, et en eux, c'est le Christ qu'elle veut servir. Pour Pierre Goursat, ce n'était pas de la théorie. Il avait un amour de prédilection pour les pauvres et les paumés. Et quand l'un d'eux se présentait, même à l'improviste, tout le reste devenait alors secondaire. Pierre acceptait toujours d'être dérangé par quelqu'un qui avait besoin d'aide, même lorsque cela n'était pas prévu. Il n'hésitait pas à interrompre un travail important ou à remettre un rendez-vous pour les recevoir longuement, parce qu'en eux, il voyait Jésus. Pierre tenait beaucoup à ce que la communauté de l'Emmanuel soit ouverte aux plus pauvres et les accueille en son sein. Il avait acheté la péniche en 1970, donc avant le renouveau, pour en faire un centre de prévention pour les jeunes tentés par la drogue. Et ensuite, deux jeunes filles y accueillir des clochards et des marginaux. Quelques années plus tard, il me confia la responsabilité de l'Arche de la Colombe, une maison d'accueil située en dehors de Paris, dans l'Oise, qui avait pour objectif d'aider des hommes en difficulté, des jeunes délinquants, des drogués, voire des criminels ayant fait de la prison, à se réinsérer dans la société par la prière, la vie fraternelle et le travail. Lorsque Pierre s'adressait aux responsables des groupes de prière du renouveau, il les exhortait à s'ouvrir aux pauvres. Je le cite, « C'est ce que nous dit le Seigneur, au dernier jour la charité se refroidira. » Il cite là Matthieu 24, 12. Et Pierre continue, « C'est terrible, vous voyez. C'est ça, c'est le manque d'amour. Alors si vraiment vous voulez que votre groupe de prière marche profondément, eh bien allez vers les pauvres. » Dans la communauté, Pierre encouragea les visites dans les hôpitaux, lança SOS prière et d'autres initiatives de compassion qu'il considérait comme essentielles pour ouvrir notre cœur à la charité. En 1987, alors que j'étais curé de la Trinité à Paris, j'ai repris un restaurant à Pigalle pour en faire un lieu d'accueil et d'évangélisation ouvert à tous, en particulier aux personnes prostituées du quartier. Et je savais que Pierre priait souvent pour elles la nuit. Et bien que dans les dernières années de sa vie, Pierre était très fatigué, il me demandait souvent des nouvelles du bistrot du curé. Pour Pierre, ces différentes initiatives étaient importantes parce qu'il les considérait comme des signes et des fruits de la charité que le Seigneur infusait dans nos cœurs. Pierre disait « La charité, ce n'est pas du volontarisme, ce n'est pas de l'activisme, c'est vraiment avoir le cœur ému de compassion, et ce cœur ému de compassion, c'est un don, c'est un charisme. Ce n'est pas nous qui le fabriquons, c'est le Seigneur qui nous le donne, parce qu'il est touché de voir que nous nous occupons des pauvres, que nous nous occupons de ceux qui souffrent et qui sont les plus proches de son cœur. Où peut-on rencontrer Jésus ? Dans les malades ? Puisqu'il dit « C'est à moi que vous l'avez fait », Matthieu 25, 40. Alors à ce moment-là, vous êtes heureux. On est sûr d'être dans la vérité. Au dernier jour, nous serons jugés sur l'amour, disait encore Pierre, Matthieu 25, 41, 43. J'en arrive à ma troisième partie, intitulée « Intercéder pour les pécheurs et faire des petits sacrifices ». Premier point, intercéder sans relâche. L'intercession est une prière de demande qui a un grand prix aux yeux de Dieu parce qu'elle nous conforme de près à la prière de Jésus. C'est l'unique intercesseur auprès du Père en faveur de tous les hommes, des pécheurs en particulier. Et là, je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique au numéro 2634. Le Christ est en effet le grand prêtre, le prêtre par excellence, je cite, capable de sauver de façon définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est l'Épître aux Hébreux au chapitre 7, 25. Et cela parce que le Christ s'est offert pour nous une fois pour toutes sur la croix. Par l'intercession, nous nous détournons de nous-mêmes pour nous confier à la miséricorde de Dieu tous ceux qui souffrent et ont besoin de réconfort. Elle est accessible à tous, en particulier à ceux qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas s'engager activement dans des apostolats. Cette forme de prière, l'intercession, permet à chacun de vivre la fonction sacerdotale qui est celle de tout baptisé. Dans l'exhortation apostolique sur les fidèles laïcs, au numéro 14, il est écrit « Les fidèles laïcs participent à l'office sacerdotal par lequel Jésus s'est offert lui-même sur la croix et continue encore à s'offrir dans la célébration de l'Eucharistie, à la gloire du Père pour le salut de l'humanité. Incorporés à Jésus-Christ, les baptisés sont unis à lui et à son sacrifice par l'offrande d'eux-mêmes et de toutes leurs activités. » Et comme nous sommes souvent démunis, ne sachant pas comment prier, ou prier comme il faut, à quelle intention, nous avons reçu l'Esprit Saint, qui est le paraclet, c'est-à-dire l'avocat, celui qui défend notre cause et celle de tous les hommes auprès du Père. Et là, je vous cite encore l'Écriture, l'Épître aux Romains au chapitre 8, versets 26-27. L'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables, et son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. Nous ne mesurons pas combien cette prière d'intercession peut être d'un grand secours à tous ceux qui vivent des situations de détresse matérielle, psychologique et spirituelle, même si nous n'en voyons pas les fruits immédiats. C'est pourquoi l'Église nous encourage à prier pour les vivants, mais également pour les défunts, pour les âmes du purgatoire. Dans les longues heures que Pierre Goursat passait à prier dans la petite chapelle de la Péniche, il intercédait pour les pécheurs, particulièrement la nuit, suivant l'exemple de saint Dominique. Pierre disait « Demandons au Seigneur de brûler d'amour pour nos frères les pécheurs. » Vous savez que saint Dominique passait ses nuits en disant « Mais Seigneur, que vont devenir les pécheurs ?» Il suppliait sans arrêt. À ce point-là, d'ailleurs, cela facilite beaucoup leur raison, parce qu'au lieu de nous endormir ou de rester dans la sécheresse, quand vous voyez que les gens souffrent, vous n'avez plus de sécheresse. Vous dites « Seigneur, Seigneur, aie pitié, je te demande de m'aider à souffrir pour eux. Mes petits sacrifices, prends-les dans ton amour, transforme-les par ta force pour convertir les pécheurs. » Deuxième point, offrir ses souffrances en union avec Jésus sur la croix. C'est la soif des âmes qui est la source de la compassion, qui habitait le cœur de Pierre Goursat et nourrissait sa prière. Comme l'étymologie latine l'indique, compatir signifie souffrir avec. Il peut paraître étonnant que Pierre Goursat ait vécu cette attitude spirituelle alors qu'il disait publiquement qu'il avait peur de souffrir et qu'il prenait toujours un christianisme joyeux, à l'opposé du dolorisme janséniste. Il avait compris que le mystère de la croix est le cœur de notre vie chrétienne et qu'on ne peut pas entrer dans la joie de la résurrection sans partager la passion de Jésus, source de vie pour les pécheurs. À propos de Catherine de Sienne, Pierre disait « Elle était mangée, brûlée par l'amour de Dieu. Jésus lui a parlé, comme il la connaissait, il lui a fait des confidences et lui a dit « Moi, sur la croix, je n'avais qu'une idée, c'est d'arriver à la croix. Je souffrais tellement de la soif des âmes, qu'au contraire, la croix était pour moi un soulagement. » Et Pierre ajoutait, Vous vous rendez compte, mais c'est ça qui est essentiel. Parlant de Sainte Thérèse de Lisieux, Pierre affirmait, cette petite Thérèse de l'enfant Jésus disait, « C'est terrible ce que je souffre. » Mais elle était tellement heureuse de sauver les âmes. Elle avait vraiment le feu de l'amour en elle. Alors ce qu'il faut demander, c'est ce feu de l'amour, un feu infiniment plus grand que les souffrances. Donc à ce moment-là, on dépasse les souffrances. Et ce feu de l'amour, ça nous est donné par Jésus. Il ne peut rien nous refuser. Alors, ayons confiance. Cet exemple est une belle illustration de l'affirmation de saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Comment comprendre cette parole ? Le catéchisme de l'Église catholique affirme « Le seul sacrifice parfait est celui que le Christ a offert sur la croix en totale offrande à l'amour du Père et pour notre salut. » Mais il précise aussitôt « En nous unissant à son sacrifice, nous pouvons faire de notre vie un sacrifice à Dieu. » C'est au numéro 2100. Aujourd'hui, comme en tout temps, Jésus cherche et recherche des Simon de Cyrène pour l'aider à porter sa croix et il nous demande de coopérer à son œuvre de rédemption par l'offrande de notre vie. Troisième point, faire des petits sacrifices pour sauver des âmes. À une époque marquée par la recherche du confort et de l'épanouissement de soi, Pierre Goursat ne craignait pas d'aller à contre-courant et soulignait souvent l'importance des petits sacrifices. À l'exemple de la petite Thérèse, il nous invitait à offrir concrètement les épreuves, les échecs, les humiliations, les contrariétés, les désagréments que nous connaissons pour sauver les âmes. Voici ce que disait Pierre. Il faut vraiment demander cette joie de l'amour et ce feu et d'être des torches vivantes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On a beau dire « Seigneur, je veux brûler avec toi ». C'est du sentiment. Sur le plan pratique, on n'a qu'à se retourner vers Thérèse et voir ce qu'elle nous dit. Elle nous dit « C'est par les petits sacrifices que j'ai faits pour le Seigneur que je serai si bien reçu ». Et comme Pierre était très concret, il donnait des exemples faciles. Enfin, faciles. Il donnait des exemples à mettre en pratique. « Avant de s'endormir, disait-il, on peut dire, « Seigneur, je t'en prie, pendant cette nuit où je vais être dans mon lit bien douillé à me reposer, je prie pour tous ceux à qui on a enlevé toutes les couvertures, les vêtements, et qui sont obligés de coucher sur une dalle humide dans le froid d'un cachot. Seigneur, arrange-toi pour qu'ils ne souffrent pas trop et donne-leur la force. » La vie communautaire est un lieu privilégié pour s'exercer aux petits sacrifices, que ce soit dans les relations fraternelles ou dans les services. Thérèse de Lisieux avait dans sa communauté une sœur qu'elle ne pouvait absolument pas supporter. Mais plutôt que de lui manifester son agacement, elle décida de toujours l'aborder avec un grand sourire. Si bien que cette religieuse pensait que Thérèse était sa meilleure amie, comme elle en a d'ailleurs témoigné à son procès de canonisation. Pierre donnait des conseils pour nous aider à vivre notre engagement dans la communauté de l'Emmanuel. Il disait « Nous faisons des services, et quoi que nous fassions, nous disons « Seigneur Jésus, je t'offre ça pour les grands malades, pour les torturés, pour tous les gens désespérés. » Et alors vraiment, il y a une immensité d'amour qui se répand dans le monde. Il soulignait que ce n'est pas l'ascèse et l'effort qui importent, mais surtout l'intention et l'amour que nous mettons dans ces petits sacrifices. Je le cite encore, « Comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus, tout ce qu'on fait par amour devient de l'amour. Et ce ne sont pas les services eux-mêmes qu'on rend qui existent réellement dans le cœur du Seigneur. C'est la manière dont on les fait avec amour. » Il ajoutait, « Parce que ces petits sacrifices sont des sacrifices d'amour Et l'amour transforme tout. Ce qui compte, ce n'est pas les choses que l'on fait, mais c'est l'amour avec lequel on les fait. Pour ne pas se décourager, il est préférable de ne pas se fixer des objectifs trop difficiles à atteindre. Commencer par des privations qui ne coûtent pas trop nous permet de progresser sur le chemin de la sanctification. Je cite Pierre, Thérèse disait « Il faut des sacrifices ». Mais si on fait des sacrifices, on dit « Seigneur, mais enfin, moi, je ne peux pas, et puis, ça me tend, je suis fatigué. » Et elle dit « Eh bien, moi, je fais des tout petits sacrifices. Alors, ce sont de tout petits sacrifices, je ramasse une épingle, je ramasse un papier qui traîne. » Enfin, si on fait ça par amour, c'est de l'amour. C'est l'intention qui compte. Et d'autre part, ce sont des petits sacrifices qui nous remettent en présence de Dieu. Alors, tous ces petits sacrifices, ça nous met dans un état d'amour et dans un état d'attention au Seigneur. Et Pierre concluait, c'est une question d'habitude. Quand on commence à faire des sacrifices, on continue à faire des sacrifices. Surtout si on les vit, si on les fait par amour. Pierre, qui était conscient de ses faiblesses et connaissait bien la nature humaine, nous invitait avec réalisme à ne pas viser des actes héroïques inaccessibles à la plupart d'entre nous, mais à rechercher les sacrifices les plus simples, en apparence les plus insignifiants. Comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai commencé par des petits sacrifices, mais des tout petits sacrifices, les plus petits que vous pouvez trouver. Dès que vous en trouvez un gros, dites « Ah non, il est encore trop gros ». Alors vous cherchez et vous dites « Non, il est encore trop gros ». Vous prenez le plus petit. Alors le plus petit, ce n'est pas fatigant. Cette spiritualité des petits sacrifices de la petite Thérèse peut paraître inappropriée à certains chrétiens qui pensent que la sainteté s'acquiert au prix de grands efforts, d'une ascèse rigoureuse. Pierre rappelait qu'elle suppose beaucoup de simplicité, un sens de la gratuité et du service. Je le cite encore. « On dit offrir des sacrifices, ça ne sert à rien, c'est ridicule. Ce sont les enfants qui font des petits sacrifices. Mais il faut prendre tout à fait au sérieux ces sacrifices que font les enfants. » Et souvent, ça les conduit à la sainteté. Alors nous devons nous mettre à cette école de simplicité et de prière de ces petits sacrifices. Mais ces petits sacrifices, c'est aussi accepter des petits services à droite, à gauche, qu'on nous demande de faire. Et c'est important parce que ça crée vraiment dans la communauté un amour, une joie, une vraie charité. C'est parce qu'on est très simplement ensemble, disait Pierre, qu'il y a un rayonnement de foi, de joie et d'immensité d'amour. Est-ce que ça va, vous suivez? Ça va, vous dormez pas trop, les enfants? Il faut dire que ça chauffe. Hein, à chez elle, ça chauffe aujourd'hui. Le feu de l'Esprit Saint est avec nous, on a le soleil dans le dos et vous l'avez dans les yeux, vous. Donc voici la quatrième et dernière partie, rassurez-vous. Le cœur de Jésus est l'offrande d'amour miséricordieux. Premier point, le don de soi est l'offrande à l'amour miséricordieux. Ces renoncements et ces petits sacrifices quotidiens que nous faisons par amour nous apprennent peu à peu à nous offrir à Dieu pour participer à la rédemption du monde. La communauté est une école de sanctification où nous nous encourageons mutuellement à nous donner au service de nos frères. Pierre Goursat rappelait souvent, si on entre dans la communauté, on entre en disant « Seigneur, je me donne à toi ». Et dans un acte de foi, c'est à lui qu'on se donne et on se donne à ses frères. Et on demande tous les jours de se donner et de prier ensemble. Mais l'essentiel, c'est l'amour. C'est vraiment de savoir que Jésus est vivant, qu'il nous appelle, qu'on veut se donner à lui, qu'on veut sauver le monde par la croix avec Jésus, et puis qu'on est heureux de l'aimer. Pierre disait encore à ce propos, « Pour que Jésus nous donne tout, il faut nous-mêmes que nous lui donnions tout. Il faut qu'on fasse un échange, sinon il ne peut pas, il ne peut rien faire. » Et à ce moment-là, c'est fantastique, ça avance. C'est l'Esprit Saint qui progressivement nous apprend à renoncer à notre volonté propre et à accepter de dépendre de Dieu et à lui remettre notre vie pour sa plus grande gloire. Comme le souligne saint Paul, cela n'est possible que si nous nous remettons à la miséricorde de Dieu. C'est l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. » Pierre a emprunté ce chemin de la petite voix et de l'offrande de soi à la suite de Thérèse de l'Enfant Jésus. 2 ans avant sa mort, elle découvre l'amour miséricordieux le 9 juin 1895. Au cours de la messe du dimanche de la Trinité, Thérèse reçoit l'inspiration de s'offrir à l'amour miséricordieux. Et 2 jours plus tard, elle fait son acte d'offrande. C'est une nouveauté totale dans le contexte spirituel de la fin du XIXe siècle, où l'on offrait, où l'on s'offrait à la justice divine. C'est une nouveauté totale dans le contexte spirituel de la fin du XIXe siècle, où l'on s'offrait à la justice de Dieu en victime pour la réparation des péchés du monde. Pierre Goursat a commenté à de nombreuses reprises cet acte d'offrande de la jeune carmélite de Lisieux. Je vous cite un passage parmi d'autres. Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Je m'offre comme victime à l'amour miséricordieux ». Alors le mot « victime », ça fiche la frousse à tout le monde. Elle ne parle pas de la justice divine, mais elle dit « Moi, je suis trop petite pour tout ça. Moi, je m'offre comme victime à l'amour miséricordieux ». Alors avec l'amour miséricordieux, il n'y a pas de danger. On ne doit pas avoir peur de l'amour miséricordieux. Tout ce qu'il peut, c'est nous faire avoir une intensité d'amour telle que finalement on brûle avec lui et que finalement ça nous purifie. Et puis ça purifie aussi, uni à ses souffrances, un peu les péchés du monde. 2e point, le cœur de Jésus, source de la miséricorde divine. Le feu de la charité est la source du zèle pour le salut des âmes et nous entraîne à nous offrir à la miséricorde de Dieu. Il prend sa source dans le cœur de Jésus, qui est une fournaise ardente de charité. Pierre disait, il faut demander au Seigneur qu'il nous mette le feu dans le cœur. Il faut se mettre dans son cœur, puisque c'est un brasier ardent qui se communique à nous. Alors on brûle comme un tison, on brûle d'amour. À une autre occasion, Pierre affirmait, et ensuite ce feu vient dans notre cœur, vous ne savez pas. Vous ne savez plus où aller parce qu'il y a ce feu partout. Et ce feu vous porte à aimer votre prochain, à aimer le Seigneur. Ça devient une souffrance très grande, mais c'est une souffrance d'amour. Et c'est celle-là, vraiment, qui nous transforme. Et puis, comme elle nous brûle complètement, évidemment, nous illuminons les autres si nous brûlons nous-mêmes. Et finalement, ça aide tout le monde. C'est vraiment ce feu. Alors, tant qu'on n'aura pas ce feu, on n'arrivera jamais très loin. Au XVIIe siècle, Jésus est apparu plusieurs fois à Sainte Marguerite-Marie à Paray-le-Monial, lui présentant son cœur dans un trône de flamme. Alors que le cœur des hommes s'était refroidi au point d'affaiblir grandement la ferveur des chrétiens, Jésus a voulu nous communiquer le feu brûlant de la charité divine que son cœur ne pouvait plus contenir. Le Christ voulait ainsi nous faire prendre conscience de cette immense soif d'amour qu'il éprouve à l'égard de tous les hommes et qu'il a manifesté au plus haut point sur la croix. Il reprochait aux chrétiens leur indifférence et leur ingratitude et les invitait à lui rendre amour pour amour. Jésus demanda à Sainte Marguerite Marie de réparer ce péché d'ingratitude des hommes par la prière et la pénitence, en particulier par la confession et la communion chaque premier vendredi du mois, ainsi que par l'heure sainte, le jeudi soir, qui consiste à demeurer devant le Saint-Sacrement en union avec lui qui vit son agonie à Gethsémani. Il faut comprendre la réparation. comme l'attitude de l'Église qui s'afflige et fait pénitence pour les fautes de ses membres qui la défigurent, parce qu'ils ne réalisent pas à quel point Jésus les a aimés en acceptant de donner sa vie pour eux. La pratique des petits sacrifices est à comprendre dans le sens de la réparation que le Christ a demandé à Sainte Marguerite Marie. C'est ce que cherchait à vivre Sainte Thérèse, qui multipliait les actes d'amour pour consoler Jésus. Troisième point, le cœur de Jésus et l'effusion de l'Esprit. Durant toute sa vie, Jean-Paul II a eu une grande dévotion pour le Sacré-Cœur. Très jeune, il comprit l'importance de la miséricorde divine qui est au cœur des révélations que le Seigneur a faites à Sœur Faustine dans le prolongement direct du message de Paray-le-Monial et de la doctrine spirituelle de la petite Thérèse. En canonisant Sœur Faustine le 30 avril 2000, Jean-Paul II a également institué la fête de la miséricorde qui est célébrée depuis lors chaque année le dimanche après Pâques. La mort de Jean-Paul II le 2 avril 2005, en la vigile du dimanche de la miséricorde, et ses béatifications le jour de cette même fête, sont des signes que Dieu a voulu nous donner pour nous faire comprendre qu'il fut pour notre temps le pape de la miséricorde. Il est également significatif que Benoît XVI ait voulu placer son pontificat sous le signe de la charité, à laquelle il a consacré sa première encyclique, Deus Caritas Est, publié le 25 décembre 2005. Dans ce document, le pape consacre trois passages au cœur du Christ, numéro 7, 12 et 19. En introduction, il explique que la contemplation du cœur ouvert de Jésus sur la croix est à l'origine de son encyclique. Au début de la deuxième partie, Benoît XVI résume sa pensée dans les termes suivants. Dans les réflexions qui précèdent, nous avons pu fixer notre regard sur celui qui a été transpercé, et il se réfère bien sûr aux paroles de l'Écriture, Jean 19, 37, qui se réfère à Zacharie 12, 10. Dans les réflexions qui précèdent, disait donc Benoît XVI, nous avons pu fixer notre regard sur celui qui était transpercé, reconnaissant le dessein du Père qui, mû par l'amour, a envoyé son Fils unique dans le monde pour racheter l'homme. Mourant sur la croix, Jésus, comme le souligne l'évangéliste, remit l'Esprit, Jean 19, 30, prélude du don de l'Esprit Saint qu'il ferait après la résurrection. Se réaliserait ainsi la promesse des fleuves d'eau vive qui, grâce à l'effusion de l'Esprit, jailliraient du cœur des croyants. Et là, bien sûr, Benoît XVI fait allusion au passage de Saint Jean, au chapitre 7, versets 38-39. Benoît XVI fait ici référence donc à la promesse de l'eau vive que Jésus a faite avant de mourir. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Jean 7, 37. Saint Jean en explicite aussitôt le sens. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Car il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les fleuves d'eau vive que le Christ promet aux croyants, c'est donc l'Esprit Saint qui jaillira de son côté transpercé sur la croix et qui se répandra sur l'Église et sur le monde. Cette promesse de Jésus s'accomplit sur la croix lorsqu'après sa mort, son cœur est transpercé par la lance du soldat romain. Il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Jean 19, 34. De son côté ouvert, jaillit l'Esprit Saint qui portera cette œuvre de salut jusqu'à son plein achèvement. Le cœur de Jésus, désormais ouvert pour l'éternité, manifeste son amour infini, sans limite, pour tous les hommes qui est venu sauver. C'est ce que disait Saint Bonaventure, si votre cœur fut blessé, c'est pour qu'à travers la plaie visible, nous voyons la plaie invisible de l'amour. Et j'en arrive à ma conclusion. C'est en contemplant Jésus crucifié, son cœur transpercé, que nous comprenons que nous sommes appelés, nous aussi, à nous livrer, à aimer jusqu'au bout. Jean 13, 1. L'Eucharistie, dit l'encyclique Orietis Aquas de Pie XII, est un don du Sacré-Cœur de Jésus. Et l'on peut dire que le cœur de Jésus est une manifestation eucharistique. En participant avec ferveur à l'Eucharistie où s'actualise le sacrifice de la croix et où le Christ se rend vraiment présent à nous chaque jour, en venant demeurer avec lui et l'adorer dans le Saint-Sacrement, tout notre être est peu à peu transformé et nous sommes habités par ce désir profond de Jésus que son amour soit connu et accueilli par tous les hommes. Il vient renouveler en nous le zèle pour le salut des âmes et le feu pour l'évangélisation. Frères et sœurs, en cette année jubilaire où nous nous préparons ensemble à vivre une nouvelle Pentecôte, demandons au Seigneur la grâce de nous laisser embraser par le feu de l'Esprit-Saint. Et on peut chanter. Bien, Esprit de Sainteté, autre chose. Amen.